Voilà, vous vous attendez peut-être en introduction, en guise d'introduction à la prédication, à la petite histoire habituelle. Je suis désolé, celle que je vais vous raconter n'est pas tirée du recueil d'où Stéphane tire toutes les siennes et dont il refuse toujours de nous donner la référence. Où es-tu, Stéphane ? Tu te dois de nous donner la référence de ton petit livre d'où tu tires toutes tes histoires. Non. Celle-ci est une histoire vraie. Et je suis désolé, mais c'est une histoire qui est tristement vraie. Il y a très peu de temps, j'annonçais à un couple âgé de notre église un événement qui était survenu dans la vie de l'église et dont vous aviez tous été tenus au courant. Cet événement n'a pas d'importance en soi. Et le frère de ce couple m'a fait une réponse qui a été comme une claque pour moi. Il m'a dit « Nous ne savions pas cette nouvelle que vous saviez tous. D'ailleurs, personne ne nous informe jamais de rien. Nous nous sentons abandonnés. On ne voit jamais personne. » J'ai rapporté cette réflexion au conseil d'anciens et diacres et nous l'avons tous reçue comme une véritable claque. Comment, malgré tous nos efforts, le temps investi dans la vie de l'Église, dans des choses essentielles, mais aussi en considérant le besoin de visites, etc., avions-nous pu passer à côté d'un besoin élémentaire de chacun des membres de l'Église, qui est de compter, d'exister, d'être pris en considération, d'être informé, d'être encouragé, d'être visité, etc. Comment ? Comment, préoccupés par tant d'autres choses légitimes, avions-nous négligé ce que l'Écriture présente, et c'est ce que je voudrais faire avec pour nous tous ce matin, comme une responsabilité essentielle, une responsabilité qui est individuelle et une responsabilité qui est communautaire. Ma prédication sera courte, elle sera suivie par une information de deux initiatives que nous avons décidé de prendre dans le cadre du Conseil de l'Église. Je commencerai d'abord par ces quelques éléments de la parole de Dieu. Tout d'abord, par un enseignement que l'apôtre Jacques donne. Et dans son épître, Jacques va s'employer à faire une démonstration. J'ai bien aimé ce que Patrice a partagé concernant notre salut, qui en aucune façon ne dépend des œuvres. Et Jacques part de cet acquis, sans aucun doute. Et il dit que, dans le chapitre 2, le verset 17, concernant cette foi qui nous donne accès à la grâce de Dieu pour notre salut, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous n'accédons au salut que par la foi, pour bénéficier de cette grâce que Dieu nous fait, du salut. Mais à partir de là, si cette foi ne se traduit pas inévitablement, inéluctablement, automatiquement par des œuvres, il y a de quoi douter de la réalité de cette foi. Et l'apôtre Jacques va très loin et il dit que cette foi, elle est inutile, elle est morte, elle ne sert à rien. Jacques, dans son épître, le but n'est pas de faire une étude de l'épître de Jacques ici, va citer plusieurs domaines, plusieurs exemples où précisément notre foi, une foi authentique et véritable, doit se traduire par des œuvres et va se traduire par des œuvres. Et il va prendre un exemple dans le premier chapitre, au verset 27, il va prendre un exemple qui est provoquant. Et il va parler, l'Écriture en parle très rarement, il va employer le mot de religion. Il n'y a que trois mentions dans le Nouveau Testament de ce mot religion. Et il dit que Jacques 1, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Se préserver des souillures du monde, nous en parlons souvent. Tout le domaine d'une vie de sainteté, une pureté à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais l'apôtre Jacques dit quelque chose ici, que la religion pure et sans tache, celle à laquelle, j'imagine, chacun d'entre nous aspirons, parce que nous savons que c'est celle-là véritablement qui va honorer notre Dieu et notre Sauveur, eh bien, elle se résume à quelque chose de fondamental, de basique, de concret, mais très étroit. Il a resserré le zoom, vraiment, visiter les orphelins et les veuves. C'est-à-dire qu'il pose en quelque sorte cette équation. C'est dire à quel point il considère cela comme important. Une religion pure et sans tache ne consiste pas à avoir une théologie correcte, à avoir une grande connaissance de la parole de Dieu, à manifester des dons spirituels spectaculaires, impressionnants, à faire des disciples, à témoigner de l'Évangile, toute chose véritable par ailleurs. Et l'apôtre Jacques resserre la chose et dit « Visitez les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Il y a là un message qu'il souhaite nous apporter, parce que peut-être qu'il met le doigt sur un aspect de notre ministère que nous avons le plus tendance à négliger. Un aspect du ministère que Jésus, je vous rappelle que Jacques était le frère de Jésus, un ministère dont il avait été témoin dans la vie de Jésus. Rappelons-nous un petit peu tout ce que ces mains de Jésus qu'on a évoquées ce matin ont fait, la préoccupation qu'il a eue de faire du bien, de s'occuper des affligés, des rejetés de la société, etc. Jacques avait certainement connaissance aussi de ce commandement nouveau que Jésus a posé pour la communauté de ses disciples, qui est « aimez-vous les uns les autres » et que nous connaissons universellement. Et l'apôtre Jean, qui était un très très proche de Jésus aussi, il a posé une autre équation et il a dit dans l'épître de Jean que « aimer », ce ne sont pas des paroles seulement, mais c'est « aimer », c'est de l'action et de la vérité, c'est-à-dire que c'est du concret. Ce n'est pas simplement dire « mon frère, ma sœur, je t'aime », mais c'est de le manifester dans le concret. Pour l'action et la vérité, Jésus les a mis en œuvre. Et Jésus pouvait se permettre, dans Matthieu, au chapitre 25, dans les versets 35 à 40, que je vais vous inviter à lire, de poser un raisonnement qui est assez étonnant. Et il dit à ses disciples, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et j'imagine la tête des disciples regardant avec des yeux qui s'ouvrent de plus en plus. « Mais de quoi tu nous parles? On ne t'a jamais vu dans ces circonstances-là. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, verset 40, je saute tout de suite. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à Jésus qu'elles ont été faites, ces choses. » Et ce sont des choses extrêmement concrètes et basiques. Et Jésus, disant cela, identifie au sein de la communauté des frères et sœurs, on en vient à cette responsabilité communautaire qui est la nôtre, une catégorie de personnes qu'il appelle ses plus petits. Et on va retrouver ça dans la parole de Dieu, en d'autres endroits, dans l'épître de Paul, sous le terme « les faibles ». Il y a dans la communauté des enfants de Dieu des catégories. Nous avons tendance souvent à dire « non, il n'y a pas de catégorie ». Mais si, il y en a, par le fait des choses, par le fait de la pauvreté, par le fait de la maladie, par le fait de l'isolement, par le fait de l'éloignement, par le fait de l'emprisonnement, par le fait d'une langue qui ne nous est pas propre parce que nous sommes étrangers, d'un logement que nous n'avons pas encore, etc. Il y a un certain nombre de personnes que Jésus-Christ identifie comme les plus petits et dont l'apôtre Paul parle comme des plus faibles. Et l'apôtre Paul va évoquer dans une épître, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, il va dire « supportez les faibles, supporter les faibles, dans le sens, pas les supporter, nous gonfle, mais dans le sens, ils ont besoin d'une épaule, ils ont besoin d'une main qui les soutient. À la communauté d'Israël, Dieu, dans sa loi, avait déjà commandé un certain nombre de choses. Il avait identifié les vieillards à honorer. Je ne vais pas lire tous les textes, ce serait trop long. Je vais laisser la place à l'information qui va suivre. Il avait, dans la loi, Dieu avait identifié les pauvres à assister. Il avait identifié la veuve et l'orphelin à protéger. Il avait identifié l'esclave dont il fallait veiller aux droits et les pauvres qu'il ne fallait pas déjuger dans l'exercice de la justice. Il avait évoqué l'étranger à accueillir. Et je mets trois points de suspension. Il y a d'autres personnes qui sont identifiées ainsi dans la loi d'Israël pour lesquelles le peuple avait reçu ce commandement. Et ensuite, dans les prophètes, parfois, la nation d'Israël a été fustigée. Et Dieu a fait dire à son peuple qu'il a été châtié parce qu'il n'avait pas rempli ses obligations d'assistance, de secours, de compassion. L'apôtre Paul considérera et le mettra en évidence dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 que c'est la gloire de l'Église et son devoir que de s'occuper de ses plus faibles. Et ce texte de 1 Corinthiens au chapitre 12, je vous invite peut-être à tourner les pages de votre Bible, on ne va pas le lire en totalité, je vais en lire certains extraits. Récemment, il a fait l'objet d'une prédication ici. C'est l'image du corps que l'apôtre Paul utilise pour expliquer ce qu'est l'Église. Et de cette image, nous retenons très habituellement, j'ai essayé de réfléchir un peu à toutes les prédications, celles peut-être moi-même que j'ai pu apporter dans le passé sur ce texte-là, nous retenons toujours la diversité et la complémentarité de l'Église, la complémentarité de tous les dons qui sont donnés à l'Église, qui font que l'Église est un tout qui fonctionne harmonieusement avec tous les dons que Dieu a jugé bon de lui accorder. C'est juste dans ce texte. Mais nous oublions une petite dimension de ce texte irrégulièrement. Je n'ai jamais entendu qu'elle ait été mentionnée dans le cadre de ce texte, où l'apôtre Paul dit, parlant de cette image du corps, et il emploie des exemples qui sont de l'ordre « Allez, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important, le cinquième orteil ou le biceps ?» Pour un haltérophile, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important ? Le biceps ou le cinquième orteil ? Le biceps, bien sûr, pour lever les poings. Non, parce que s'il n'a pas un cinquième orteil, je ne sais pas s'il y en a ici des amputés du cinquième orteil, vous saurez qu'il a du mal à établir sa stabilité sur le sol pour lever la barre. Non, l'apôtre Paul développe cette idée que tout est important dans le corps, mais il va plus loin, il dit encore, au verset 22, « Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. » Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, le terme honorable n'est peut-être pas le meilleur dans la traduction, mais les moins précieux du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, nous leur accordons un plus grand prix. Ainsi, nos membres les moins honorables reçoivent le plus de prix, de considération, tandis que ceux qui sont honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur, de prix, de considération à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, si à un membre on accorde du prix, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, chacun pour sa part. Il n'est pas du rôle spécifique des anciens que de porter attention à ses membres les plus faibles, les plus fragiles, les plus défavorisés dans la vie de l'Église. Mais il est de la responsabilité de chacun pour sa part, de la communauté tout entière, que d'y veiller. Gandhi, qui était un homme politique, déterminant dans la vie de la nation indienne, a dit on peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les plus faibles y sont traités. Et ce qui est vrai pour une nation, ne le serait-il pas pour l'Église ? Ne pourrions-nous pas dire aussi que nous pourrions juger de la grandeur d'une Église à la façon dont les plus faibles y sont traités ? Dans l'Église, nous avons pris déjà depuis longtemps des initiatives pour veiller à l'entraide matérielle. Il y a une association, pour ceux qui sont un peu nouveaux dans l'Église, qui existe, qui est l'association Grâce, une association qui reçoit des subsides et des dons pour aider, venir apporter des secours dans la discrétion à des personnes qui connaîtraient des difficultés d'ordre matériel plutôt, ou administratif, professionnel ou autre. Dans le domaine de la compassion aux isolés, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes qui se trouvent seules par le fait des événements de la vie, en deuil, où je rapproche assez volontiers les divorcés, les familles monoparentales, nous n'avons pas donné de réponse structurée dans la vie de l'Église. Et les anciens essaient, avec les diacres et d'autres personnes dans l'Église, de faire beaucoup. Mais je vais inviter Florence à venir, qui, parmi les diacres, a reçu depuis un moment déjà la responsabilité spécifique et a déjà beaucoup fait dans ce domaine-là, à venir nous présenter, Flo, où es-tu ? L'état des lieux, un petit peu, de notre Église, pour que nous prenions conscience un peu de ses besoins.
Bonjour à tous. Donc, si nous faisons un peu une photo au jour d'aujourd'hui des personnes un petit peu fragiles à visiter dans notre assemblée, ça pourrait ressembler à ceci. Donc 21 personnes âgées, dont 8 qui ne se déplacent plus, 9 malades chroniques ou handicapés et 8 personnes en situation de veuvage. Donc je profite déjà d'avoir la parole ce matin pour remercier les quelques personnes qui font régulièrement ou épisodiquement des visites aux personnes âgées ou aux personnes malades. Et je pense que chacun pourra vraiment témoigner que ça apporte de grandes joies aux personnes qui sont visitées et que c'est aussi de grandes bénédictions aussi pour ceux qui consacrent un peu de ce temps. En concertation avec les anciens et les diacres, il nous a semblé important d'essayer d'améliorer davantage notre façon de prendre soin des uns et des autres et des plus fragiles. Et c'est pourquoi on propose aujourd'hui de créer un petit groupe de visiteurs dont j'aurai la charge de coordonner. Donc je vous encourage à venir me voir à la fin du culte ou par mail, à communiquer avec moi ou par téléphone pour que je puisse avoir un petit groupe de personnes volontaires qui veulent donner un peu de leur temps pour des visites. Donc il y aura des besoins à court terme pour toutes les personnes qui sont hospitalisées pour un temps réduit, ou aussi des besoins pour un temps plus long, pour des visites plus régulières. Et dans chacune de ces situations, je pourrais vous solliciter en proposant de remplir un doodle en fonction, bien entendu, des disponibilités de chacun. Il n'y aura rien d'imposé. Ça sera vraiment en fonction de ce que vous pouvez donner comme temps. On ne demande pas de qualification particulière. On peut apporter un verset, on peut apporter quelque chose, une parole qui nous a plus parlé d'une prédication, partager un goûter, prier ensemble, donner des nouvelles de l'Église, vraiment des choses simples, et écouter uniquement, simplement. Il n'y aura donc pas de qualification particulière qui est demandée. Il y aura une formation qui pourra être proposée si on en juge nécessaire. Et à la fin de chaque visite, je souhaiterais juste que vous me fassiez un retour pour qu'après on puisse adapter au mieux nos visites en fonction des besoins constatés. Donc je vous encourage vraiment à venir me voir à la fin du culte ou à me contacter par mail. Voilà.
Merci Florence. Florence a parlé d'un petit groupe de personnes. Il y a déjà un petit groupe de personnes dans l'Église et nous aimerions que ce groupe, vous l'avez compris, s'élargisse. Parce que les anciens et les diacres ne peuvent pas faire face à tout et se trouvent face à des situations comme celle que j'ai évoquée, que nous avons vécue récemment et qui vraiment nous a touchés au plus profond de nous. Sachez que ça peut se manifester pas simplement par des visites, mais simplement par un coup de fil, par un mail envoyé pour ceux qui en ont. Mais bon, on a parlé de beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément accès au mail. Ça peut être un courrier. Ça peut être tout simplement d'être salué à la fin du culte et parce qu'on est âgé, ne pas être oublié de la salutation fraternelle que nous apportons les uns et les autres et des salutations que souvent nous envisageons de façon très catégorielle, sans sortir. Et là-dessus, je voudrais parler aux jeunes en particulier. Il y a un réel bonheur que d'encourager et de faire du bien par quelques paroles des personnes qui ne sont pas de votre catégorie d'âge. L'Écriture, je reviens sur ce verset avant de donner la parole à Jean, là, qui va s'approcher. L'apôtre Paul dit que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires à la vie de l'Église. Parce qu'elles nous font cultiver ces dimensions qui sont éminemment évangéliques, qui sont l'humilité, et des personnes à aimer parce qu'elles en ont particulièrement besoin et parce qu'elles ne peuvent pas forcément donner en retour. Nous en avons besoin de ces personnes plus faibles parce que nous pouvons, au travers elles, manifester la réalité de l'amour du Seigneur qui est un amour en action. Et Jean va vous présenter une autre initiative que nous avons prise qui est une initiative plutôt de résurrection de quelque chose qui a existé dans le passé.
Frères et sœurs, bonjour. Chers amis, tous ceux que j'ai pris l'occasion de saluer en début de culte. Tout le monde sait ce que c'est, cet objet, cet instrument. Je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez dans les voitures. C'est un indicateur de route, bien sûr. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Il s'appelle GPS, mais ce n'est pas spécialement de celui-là que je vous parle. Vous voyez quelque chose peut-être qui prête à sourire. J'ose vous demander qui a connu un peu cette époque. Pas de Def, Simca, Renault 8, voilà, stylé. Voilà, je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Merci beaucoup. Effectivement, on peut se retrouver dans ces images-là, hein, je vois Jean-Yves, Dominique, moi-même, Reynald, Josiane, etc., Marie, voilà, plusieurs d'entre nous, Daniel, Hélène, on se voit un peu dans cette époque, les années 70-80. Et ceux qui sont nés à cette période-là, en fait, ou plutôt, qui sont nés dans une période précédente à cette époque-là, aujourd'hui, avancent en âge, on appelle ça des anciens jeunes, pas des vieux, pas du troisième âge, pas du quatrième non plus, des anciens jeunes qui avancent aussi avec l'âge et qui veulent quand même prendre du temps parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et il y a eu comme une parenthèse et nous voulons remettre en marche maintenant quelque chose qui fonctionnait bien et qui nous donnera l'occasion justement d'être et de vivre ensemble une situation meilleure. GPS, groupe de partage et de soutien. Vous avez levé la main ? Vous êtes censé faire partie de ce groupe, groupe de partage et de soutien. C'est bien parce que ça, c'est pris dans la bonne humeur et c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est quelque chose que Dieu veut. Il veut que les chrétiens soient joyeux, dans la bonne humeur, de se rencontrer dans sa présence, de partager la parole dans sa présence, de vivre la communion fraternelle dans sa présence. Alors, qu'est-ce que le groupe de partage et de soutien ? Voilà, c'est un groupe qui va se réunir à partir du début de l'année prochaine. Donc, comme objectif, la méditation de la parole. J'ai mis à l'appui des versets bibliques. Le partage de nos joies et de nos fardeaux. Un temps pour louer et se soutenir. De la détente et de la convivialité. Un week-end de sortie dans l'année, Dieu voulant. Voilà, ce groupe veut se retrouver où ? Ici, peut-être la dernière diapo. Donc, lieu et fréquence, c'est ici à l'église, bien sûr. Ils rencontrent en semaine chaque mois de 15h30 à 17h. Donc, ce sont des horaires où les retraités, les néo-retraités, les anciens retraités, ceux qui sont retraités depuis plus longtemps, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer facilement, mais qui pourront bénéficier justement de notre aide, qui sont un peu plus jeunes retraités, justement, seront pris en charge. On lui conduira ici avec les voitures. Et nous passerons de 15h30 à 17h un moment de partage, de communion, de méditation autour de la personne de notre Seigneur Jésus. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment mettre en application. Parce que comme Daniel l'a dit tout à l'heure dans la prédication, il y a quelque chose, une claque qu'on a reçue et que quelque part on doit remédier à cette claque. Non pas parce qu'on veut être fier de ce que nous faisons, mais tout simplement parce que Jésus l'a montré. Il a dit, toutes les fois que vous le faites, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le ferez. Et je crois qu'il est de notre devoir, justement, que de nous retrouver et ensemble aussi chercher le meilleur moyen de nous entraider, nous, mais aussi de pouvoir nous faire du bien autour de la parole de Dieu et de pouvoir aussi ensemble visiter nos frères et sœurs qui ne peuvent plus se déplacer comme notre sœur Florence l'a cité tout à l'heure, ou même qui traversent et vivent des difficultés, qui sont actuellement hospitalisés. Et ce groupe, donc groupe de partage et de soutien, veut aussi être un groupe moteur au sein de l'Église. Je vous encourage donc tous ceux qui ont soulevé la main, voire même les sympathisants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'âge, n'est-ce pas, à partir de 50 ans, si vous êtes libre, mais même pourquoi pas. Et juste préciser aussi que ce groupe ne viendra pas non plus télescoper les autres réunions de l'Église. On le fera tout simplement à un moment où cela nous conviendra, une fois par mois, de manière à ne pas entraver aussi ne pas non plus faire des réunions supplémentaires. Sachez aussi que ce groupe, dans la rencontre de ce groupe, la rencontre mensuelle donc, que nous aurons, ne sera pas une rencontre au détriment d'une autre, dans le cadre des réunions que nous aurons habituellement au sein de l'Église. Donc c'est vraiment le groupe des aînés aujourd'hui qui va se retrouver pour ce moment de partage et de soutien. Je vous invite vraiment à vous inscrire aussi. Merci.
Voilà, merci Jean de prendre la responsabilité de ce groupe qui prendra en considération la communion pour des personnes qui sont peut-être un peu plus marginalisées dans la vie de l'Église. Ce sera annoncé régulièrement chaque fois que ce groupe se réunit. Par contre, nous ne referons pas, peut-être demain, après-demain, l'annonce concernant votre inscription auprès de Florence pour participer très librement à vos convenances à un groupe de visite lorsque vraiment le besoin s'en fait sentir. Donc n'oubliez pas, dès aujourd'hui, ou alors par mail ou par téléphone, à contacter Florence à propos de ce groupe plus étoffé pour couvrir ce besoin fondamental de l'Église aussi que nous voulons mettre en place. Merci beaucoup.